te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances, seulement en soumissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur les Goligari à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien notre émission de ce soir va être consacrée à Bure, ce fameux laboratoire qui devrait, si on n'y fait pas gaffe, se transformer en enfouissement de déchets hyper radioactifs. Si on n'y fait pas gaffe, puisqu'il y a pas mal de gens qui là-bas se sont mobilisés ces derniers temps. Je crois que Michel, tu es au bout du fil. S'il te plaît. Michel. Oh.
Oui, allô.
Oui, t'étais parti. T'entends?
Allô, allô.
Allô, tu nous entends? Ah non, il y a un petit problème technique là, je crois. Il y a un petit problème technique.
Et voilà, oui, ça a raccroché.
Ah, donc, une pause musicale. Attends, on va jouer
de la musique pour le rappeler.
C'est parti.
Alors peut-être expliquer quand même un petit peu ce qui se passe à Bure depuis bientôt maintenant
20 ans.
21 ans, ouais, puisque si on se rappelle un peu des dates, en décembre 1991, c'est la loi Bataille qui propose de Christian Bataille, un député PS de gauche, qui se propose de trouver une solution pour les déchets d'une manière générale. Et durant ces 20 ans, il va y avoir différentes tentatives qui vont être mises en place pour l'enfouissement des déchets, avec notamment un premier projet dans le Gard, qui va, lui, ne pas aboutir, puisque j'ai pas la date, mais il y aura un fort mouvement de résistance qui aboutira à la destruction des locaux, du siège même de l'Andra. Et à partir de...
Allô.
Oui,
allô.
À Michel.
Michel, d'accord. Bon, alors...
Allô.
Tu nous entends? Non, il nous entend pas. C'est pas vrai.
M'entendez-vous, s'il vous plaît?
Oui, nous
entend,
là, maintenant.
Michel.
Oui, enfin.
Alors, est-ce que tu nous entends?
Non, je ne vous entends pas.
Tu nous entends pas, c'est horrible.
Allô?
Bon, il y a un petit problème technique, je crois que la radio. On va continuer donc,
ça y est.
D'accord. Bon, alors, on faisait un petit historique. On était remonté à 1991, à la loi Bataille.
Mais je m'excuse, ici Bure, au milieu de nulle part.
Ouais. C'est vrai, ouais, quelle idée. Donc on essayait d'expliquer le processus qui avait abouti au choix de Bure et puis le fait que cette politique des déchets avait commencé en 91 avec la loi Bataille et la mise en place de cette commission de réflexion et cette action des politiques, Christian Bataille, le député PS. Et donc il y avait eu d'abord un premier échec dans le Gard à Bagnols sur 16, c'est ça, où il y avait eu un premier projet d'enfouissement et que Landra avait vu son siège détruit à ce moment-là par la résistance et la protestation des gens et que finalement le choix s'était porté sur Bure. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être les conditions du choix de Bure?
Oui, je pense que vous avez raison de mettre le doigt sur cet aspect-là parce que il est extrêmement souvent oublié et il serait intéressant de savoir pourquoi Bure, effectivement. Et en fait, c'est le cas du Gard, ça date de 1993, fin 1993, la loi Bataille, et donc le député Bataille, prend sa petite valise avec un tas de promesses, de l'argent, de l'emploi, etc., et va se promener un petit peu partout en France à la recherche de sites volontaires. Et il trouve 17 conseillers généraux, qui lui donnent son accord, qui disent « Tiens, nous, on serait peut-être intéressés ». Et donc, dans ces quatre-là, il y a la Meuse, il y a la Haute-Marne, limitrophe. Il y a le Gard, que vous venez de citer, il y a aussi la Vienne.
Ouais.
Mais ce qui est quand même intéressant, donc il y a quatre départements, et à la fin, effectivement, les années vont passer, on est en 1993, fin 1993, les années vont passer, le Gard va se rebiffer, la Vienne va être abandonnée pour des raisons assez bizarres, mais ce qui serait quand même intéressant, c'est de remonter un petit peu plus loin, et de dire quand même que dès l'origine, on va dire les années 1980, l'industrie nucléaire et les décideurs ont se rendre compte qu'il y a vraiment un problème avec l'industrie nucléaire, c'est les déchets. Et les déchets, quoi en faire dans les années 1980? La solution toute simple, c'est les enfouir. Et donc l'État s'en va avec un organisme qui s'appelle ANDRA, et à cette époque-là c'est le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui s'en va dans un département du Massif central, et qui s'appelle, il est prédestiné certainement, il s'appelle la Creuse, et donc là, on veut forer, et on veut, etc. Et là, les habitations et leurs élus, mais surtout les populations, se posent des questions, qu'est-ce que c'est que ce forage, et découvrent, au bout d'un moment, qu'il s'agit de faire un trou pour enfouir les déchets nucléaires, les populations se rebiffent. Résultat, les gouvernants arrêtent les frais, réfléchissent, et, donc on est dans les années 1980, et en 1987, ils vont ailleurs, quatre départements sont choisis, cette fois-ci, pour qu'il y ait un choix. Alors, de mémoire, il y a l'Ain, il y a l'Aisne, il y a les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Et là, 1987, les gens, là aussi, découvrent ce qu'ils veulent, qu'il y a un forage, mais pourquoi? Ils ne savent pas trop. Ils découvrent qu'il y a une histoire de déchets radioactifs, qu'il faut les enfouir. Et là aussi, il y a une véritable jacquerie, 1987. 1988, 89 et 90, et il y a de telles jacqueries, de telles révoltes, que les décideurs sont obligés d'annuler tous les projets d'enfouissement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'arrive le député Bataille, et sa fameuse voix ensuite, et où il repart dans les départements concernés, où ils disent non, on a compris ce que c'était, on n'en veut pas, et c'est comme ça qu'arrive le projet à Bure. Donc vous voyez, si le projet arrive à Bure, c'est pas du tout parce que le sous-sol s'y prête, parce que ceci, parce que cela, non, c'est uniquement parce que la démocratie, a joué son rôle, elle a joué son rôle, mais bon, de manière un peu bizarre.
Oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Bure, hein, c'est donc dans une région un peu, pas désertique, mais dirons-nous, où il y a peu d'habitants au kilomètre carré, ce qui fait que le choix de l'Andra s'est fait là-dessus, quoi, évidemment.
Oui, alors on nous parle effectivement que ce qui est important, je pense, c'est que quand on nous dit que le sous-sol, surtout maintenant, on nous martèle que le sous-sol de Bure se prête à ce genre d'exercice, hein, c'est de l'argile, ceci, etc., etc. Et en fait, pas du tout, parce que dans les années 1987, quand l'État cherchait un vrai site, tous les spécialistes en géologie en France avaient donné des sites, un petit peu le Massif central et d'autres, mais notre secteur n'était pas du tout concerné. Donc on n'était pas du tout dans les meilleurs sites, dans les meilleurs sous-sols possibles. Donc c'est par désespoir de cause que l'État, effectivement, est arrivé à Bure en 1993. Ça, c'est, je pense que c'est effectivement important à dire. Et 6 habitants kilomètres carrés, donc c'est-à-dire un désert, avec une culture qui ne se prête pas du tout à la rébellion, puisqu'on est un pays d'invasion, etc., etc. Donc c'est plutôt de la sociologie, en fait, que de la géologie.
En plus, ça se trouve à cheval sur deux départements et sur deux régions.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin, donc je ne me sens pas trop concerné.
Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu un tournant en 99, le 19 août 99, quand Ouanet est ministre verte de la gauche, Pluriel, qui était au pouvoir à cette époque-là, a signé le décret qui va autoriser le laboratoire de Bure. Alors, paraît-il, c'était contre un moratoire sur l'EPR de Flamanville. Résultat des courses, on va avoir certainement l'EPR de Flamanville, et puis si on ne lutte pas, on aura aussi l'enfouissement des déchets à Bure. Donc voilà, quoi, ce type de politique. Je crois que le laboratoire va être construit, la construction va débuter en 2000. La colonisation, on peut parler de colonisation de l'Andra dans cette région, va donc se poursuivre, s'intensifier. Les élus vont être achetés. Je crois que les premiers élus achetés ont été des conseillers généraux, d'ailleurs, de la Meuse et de la Haute-Marne dès 94. Tu me coupes si je dis des bêtises. Et voilà. Alors, on en est donc en 2005, où là, il y a tout de même 45 000 électeurs de Haute-Marne et de Meuse qui demandent la tenue d'un référendum. Et puis finalement, ces 45 000 électeurs ne pèseront pas lourd par rapport aux élus des deux départements qui s'assoient dessus. Voilà où on en est. Alors après, ça a été bien sûr le fameux débat public national en 2005 sur la gestion des déchets nucléaires. Et là, on pouvait espérer que, étant donné que beaucoup de gens prenaient position contre l'enfouissement des déchets, on pouvait espérer que ces déchets-là, qui existent bel et bien, resteraient en surface. Il n'en a rien été, puisqu'en 2006, eh bien, quand on lit bien la loi, il est certain que l'État français veut effectivement enfouir ces déchets à Bure. Michel, tu m'entends ?
Oui, je suis sidéré par ce qui s'est passé.
Ah oui, quand on ramasse tout ça sur le court temps, c'est vrai que c'est un peu hallucinant.
Oui. Mais oui, je réagis quand même. En fait, vous présentez l'affaire un petit peu exactement parce qu'il nous gêne, nous, population locale. Mais ce qu'on a découvert, évidemment, on a mis un temps infini pour découvrir tout ça. La clé de voûte de tout ce projet, en fait, c'est effectivement l'aspect démocratique. Comment les décisions sont-elles prises? Ouais. Comment la population, est-ce que la population est concernée, est impliquée, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, c'est non seulement c'est pas ça du tout. Non seulement elle n'est pas concernée, elle est déjà pas informée, elle n'est pas impliquée, mais en plus, quand elle dit quelque chose, elle est complètement bafouée. Voilà. Donc c'est vraiment un problème. Le problème de fond est énorme, majeur. Il y a un passif énorme qui est sur les aspects démocratiques.
Ouais. Mais je crois que tu n'as pas saisi ce qu'a dit la directrice de l'Andra, Marie-Claude Dupuis, puisque Marie-Claude Dupuis, donc, qui est la directrice de l'Andra, a dit que les populations n'étaient pas à même de se saisir du projet. C'est-à-dire que même si vous vouliez vous en saisir ou vous donner votre avis, vous pouvez pas parce que vous pouvez pas comprendre ce qui se passe.
Mais pas du tout, mon ami Marie-Claude Dupuis. A dit autre chose aussi. Moi, je suis très sélectif, j'entends certaines choses, j'entends pas les autres. Mais Marie-Claude Dupuis a dit et a répété, d'ailleurs elle l'a dit à Soulaine en 1985, dans l'Aube, bien avant que la poubelle nucléaire se fasse dans Soulaine, l'Andra avait déjà dit à cette époque, même si c'était pas Marie-Claude Dupuis, que si les populations n'en veulent pas, l'Andra s'en va. C'était quand même assez clair. Or là, maintenant, il est quand même assez démontré. Alors évidemment, il n'y a pas de référendum puisqu'il est interdit, il est refusé surtout. Donc on ne sait pas vraiment ce que pensent les populations, mais il est clair que maintenant, depuis quelques semaines, les populations se font entendre, qu'il y a un vrai problème, avec ce projet-là d'enfouissement, et pourtant, ni l'État, ni Marie-Claude Dupuis, et donc ni l'Andra, n'écoutent les populations, et la logique voudrait que non seulement l'Andra se sauve, reprenne ses valises et reparte dans son secteur, mais en fait, on n'écoute personne, c'est clair, hein, on fonce.
Il y a aussi la question du pognon, hein, puisqu'il y a un groupement d'intérêt public qui déverse des tonnes de fric. Quand on parle de tonnes de fric, pour l'année 2012, par exemple, ça représente 30 millions d'euros, hein, qui sont donnés aux communes et aux cantons qui ont accepté. Donc forcément, c'est des arguments qui sont mis en avant, quoi, surtout pour les politiciens locaux, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est pas ce qui va passer dans 100 000 ans, mais c'est le prochain mandat. Donc il faut vite construire et bien faire la voirie. Est-ce que tu connais le coût? Est-ce qu'on a une idée à peu près du coût global, justement, de ce qu'a pu coûter pour le moment ce groupe d'intérêt public là et la politique de l'Andra? Est-ce qu'on
oui.
a des chiffres?
Alors avant de répondre à sa question, j'irai un peu plus loin même. Hier, j'ai été interpellé sur cette question-là, et on en revient encore une fois sur la démocratie, parce que je pense que c'est une des clés, c'est justement cet argent. Et la question, elle est toute simple. Je pense que c'est la question qu'il faut poser à tout le monde, qu'il faut mettre sur la table d'emblée. C'est si nous sommes en démocratie. Voilà. Si nous sommes en démocratie, il est clair. Voilà un débat. Il est bon, il est pas bon, il est tout ce qu'on en veut. Mettons ça de côté. En fait, ce qu'il faut faire, c'est en débattre. On informe. Voilà. Information, information, information à outrance. Et ensuite, on prend une décision. Les populations prennent une décision. Si nous sommes en démocratie. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout le contraire. On n'a pas informé. Mis à part deux, trois informations, j'allais dire, dans le journal local ou dans, ou sur France 3. On n'a pas informé, mais surtout, on amène le carnet de chèques. Or, où est-ce qu'on voit? Dans quel pays on voit où on amène un carnet de chèques pour faire accepter un projet X ou Y? Donc, le fond du problème, effectivement, il est bien là. Comment peut-on accepter dans une démocratie qu'on puisse amener un projet quelconque avec un carnet de chèques? Et j'irai un peu plus loin, on n'est pas à 30 millions d'euros par an, on est à 60 millions d'euros par an. C'est le double. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions d'euros par an donnés à la Meuse et il y a 30 millions d'euros de même donnés à la Haute-Marne. Ce qui fait que dans une période de crise majeure où on ne trouve plus de sous, où on serre les robinets de tous les côtés, et ben là on continue en Meuse et en Haute-Marne donner à nos conseillers généraux 60 millions d'euros par an comme ça, qui vient du Saint-Esprit, enfin le Saint-Esprit c'est notre poche quand même, hein, ouais, entre parenthèses. Donc effectivement, il y a un vrai problème. Alors la somme globale, pour répondre à la question, je dirais pointue, la somme globale c'est qu'effectivement depuis les années, mais même depuis le projet, depuis l'origine du projet, c'est-à-dire on va revenir à l'origine, député Bataille 1994, c'est le député Bataille qui lui-même préconisait à cette époque-là, dans son rapport de décembre 1993 à l'État, de donner de l'argent aux collectivités locales. Sous-entendu, je le traduis personnellement, mais c'est quand même bien ça, sous-entendu, les relais d'opinion, ce sont les maires locaux, les petits élus locaux. Il faut donner de l'argent à ces gens-là. Alors évidemment, c'est pas donner de l'argent à eux personnellement, mais il faut donner de l'argent à la commune pour rénover le lavoir, pour faire une bordure en or massif, comme diraient certains, etc., etc. Donc l'idée, c'était bien ça, c'était de se rendre compte que c'est pas le conseil général qui est la clé de voûte, ce sont les maires locaux. Et donc actuellement, 20 ans plus tard, 18 ans plus tard, en fait, on donne 30 millions d'euros de la Meuse et 30 millions de la Haute-Marne au Conseil Général qui, lui, va redistribuer le plus largement possible cet argent de manière à ce que certains, et c'est même pas nous, qui appelons ça de l'achat du silence ou l'achat des consciences. Et je termine justement par hier, où un maire me disait encore, un maire local me disait, en fait, l'État, puisqu'il faut quand même bien dire, les décideurs, c'est quand même bien l'État, en fait, utilise de l'abus de faiblesse vis-à-vis des maires locaux, puisque les maires ont besoin d'argent. Et donc, ben voilà, par faiblesse, on leur donne de l'argent et on achète leur silence, sous-entendu leur acceptation.
Alors, je crois qu'on va parler maintenant de ce qui se passe depuis le mois de mai, avec ces fameux débats publics qui, pour l'instant, n'ont pas lieu, parce qu'il y a une résistance forte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le collectif national de débat public, le CNDP?
Alors, la CNDP, très concrètement, c'est Commission nationale du débat public. Alors, je dirais, théoriquement, c'est une très bonne chose, puisque on critique assez le système démocratique, et donc on aspire à une démocratie différente de celle qui existe en France, et quand on voit qu'il existe, qui était mis en place il y a une dizaine d'années, une commission nationale du débat public, ça paraît extrêmement positif. En fait, cet organisme, cette commission qui est indépendante, son rôle, c'est de prendre tous les sujets importants en France, alors je vais citer une ligne de TGV par exemple, mais un projet qui dépasse les 300 millions d'euros, obligatoirement, il doit y avoir un débat pendant un certain temps avec le maître d'ouvrage et avec les populations. Et il arrive quelquefois qu'effectivement les projets soient non seulement amendés, mais quelquefois il arrive même qu'ils soient complètement abandonnés parce que le maître d'ouvrage arrive avec son beau projet et les populations qui maintenant sont beaucoup plus informées et beaucoup plus, qu'auparavant, eh ben, elles amènent des contre-expertises et elles démontrent que le projet n'a pas lieu d'être, qu'il est pipé, que ceci, que cela. Donc cette Commission nationale du débat public paraît quand même un bon outil. Alors après, le problème, et dans le domaine du nucléaire particulièrement, le problème c'est est-ce que c'est une vraie commission indépendante? Est-ce qu'effectivement elle a un réel pouvoir? Enfin, c'est ses conclusions, est-ce que... Et on se rend compte que dans le domaine nucléaire, et c'est ça qui met un peu qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'effectivement, il semblerait largement que les dés sont pipés. Et si vous me permettez, puisque vous l'avez rappelé, il y a quand même eu sur ce projet d'enfouissement de septembre 2005 à janvier 2006, 4 mois, il y a eu un débat public, donc par la Commission nationale du débat public, il y a eu un débat pendant 4 mois sur le secteur de Bure, mais aussi un petit peu dans certaines villes un petit peu partout en France, à Lyon, etc., etc., ce débat public a coûté, cet exercice à cette époque-là a quand même coûté 3 millions d'euros aux contribuables, donc c'était pas de la gnognotte, c'était pas du vent, c'était voilà. Et le débat public, lui, son rôle, c'est de dire, voilà, la commission, on a entendu ceci, on a entendu cela, on fait un rapport et on dit aux décideurs, aux élus, au Parlement, voilà ce que nous avons entendu. Et à cette époque-là, le débat public 2005-2006, il a dit en conclusion, nous avons entendu deux choses essentielles. La première, c'est que les déchets nucléaires font peur aux populations locales, et comme ça fait peur ces déchets nucléaires, on ne veut pas les avoir à 500 mètres sous les pieds, on veut les garder sous les yeux. C'est-à-dire, on veut les garder en surface, quitte à refaire les enveloppes des fûts, etc., etc., quitte à refaire les hangars tous les 50 ans, on veut les garder sous les yeux. Et la deuxième point, c'est de dire aussi, c'est un projet tellement fort qu'on veut avoir notre mot à dire, sous forme de référendum, sous forme de tout ce que vous voudrez, mais on veut avoir notre mot à dire. Donc là, nous sommes en janvier 2006.
Oui.
La commission particulière du débat public, qui intéresse à Bure, fait donc un rapport, une centaine de pages, et le retransmet à tout le monde, dont les parlementaires qui, quelques mois plus tard, s'emparent du projet, c'était programmé, font tout un tas de va-et-vient entre le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., et pour une loi déchets nucléaires en 2006, que vous avez cité tout à l'heure, juin 2006. Et qu'est-ce qu'elle conclut, cette loi de 2006? Eh bien, elle conclut que, d'une part, la solution de référence, c'est pas du tout ce que demandent les gens, l'entreposage en surface, mais c'est l'enfouissement à 500 mètres de profondeur, je dis bien solution de référence. Et le deuxième point, les gens demandent d'être entendus, mais pas du tout. Nous sommes dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que ce sont les élus qui prennent les décisions pour tout le monde. C'est-à-dire, dans notre cas personnel en France, nous avons 900 et quelques élus, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est 900 personnes qui prennent la décision pour 65 millions d'habitants, plus 6000 générations qui arrivent. Et c'est même encore pire, puisque nous avons pu démontrer, nous cédera, que quand l'Assemblée nationale a pris à voter cette loi, sur les 577 députés que nous avons en France, seuls étaient présents 19.
D'accord.
Voilà, historique.
D'accord. Donc, ça se comprend que là, quand vous avez vu qu'il y avait encore un débat public, eh bien, vous n'êtes pas tombé dans le panneau en disant, bon, ben, on va encore discuter, quoi. Vous avez voulu, donc, boycotter.
Alors, oui, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. En fait, autour de Bure, il y a un certain nombre d'associations, et ça s'explique, hein, des associations locales, Meuse, Haute-Marne, il y a des associations d'élus, Lorraine-Champagne, il y a une association qui ne s'intéresse que, alors que, entre guillemets, qui a créé une maison de la résistance à Bure, qui s'appelle Bure Zone Libre, l'association. Donc il y a un certain nombre d'associations. Et chaque association réfléchit à un vécu, à un historique, un cheminement, etc., etc. Et les associations ne sont pas d'accord entre elles. Il y a effectivement une majorité qui a dit, attendez, on s'est fait rouler dans la farine. Quand je dis nous, c'est les populations locales. Les populations se sont fait rouler dans la farine en 2005-2006. Stop, on refait le même débat qu'à cette époque-là. On nous a pris pour des couillons, on ne marche plus dans la combine. Ok, on a ces associations-là. On en a d'autres, alors plus minoritaires, c'est vrai, mais on en a d'autres quand même, qui ont aussi tout un cheminement, et qui ont dit, attention, effectivement, la réaction, c'est de dire, puisqu'on s'est foutu de nous, on claque la porte, on s'en va. Sauf que les décisions, de toute façon, vont se prendre. Avec nous ou sans nous, elles vont se prendre. Est-ce qu'il ne faut pas mieux être à l'intérieur pour se faire entendre? Et puis vous avez, je termine là-dessus, vous avez un troisième type d'association. Alors, encore plus minoritaire, c'est l'exemple du CEDRA, comité d'action donc contre l'enfouissement des déchets radioactifs sur l'Haute-Marne et Champagne-Ardennes, qui lui dit, attendez, réfléchissons encore un peu plus loin, et effectivement, nous avons un passif énorme sur la région de Bure, c'est que le projet de Bure d'enfouissement, on n'en parle nulle part, mis à part dans la région. On s'est rendu compte depuis au moins un an, puisqu'on participe maintenant, nous CEDRA, des séminaires à Paris, des colloques, etc., où on fait entendre une parole, il n'a jamais été entendu par les décideurs, et on se rend compte que ces gens-là sont dans des tours d'ivoire. Donc notre conclusion, ça a été de dire, en fait, effectivement, on voudrait bien, comme tout le monde, claquer la porte, mais à la limite, ça sert à quoi? Ce qu'il faut, c'est être dehors pour se faire entendre, et il faut être à l'intérieur pour amener des arguments, pour contrecarrer tous les arguments des fossoyeurs, Andra, etc. Et donc, on essaie, sur une politique un peu particulière, de dire, il faut les deux. Il faut du dehors, il faut du dedans. Et au jour d'aujourd'hui, je termine là-dessus, au jour d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est dans une période clé où la première phase, les populations ont gagné, voilà. Elles se sont fait entendre par le bazar qu'elles ont foutu dehors, c'est vrai. Les ministères maintenant savent que Bure existe. L'ancienne ministre de l'Environnement, Madame Bateau, a été obligée de faire deux communiqués de presse, par exemple. Donc, ça y est, maintenant, on sait ce que c'est que Bure dans les tours d'ivoire, là-haut à Paris. Maintenant, il faut passer une étape supérieure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc le débat public, là, aujourd'hui, nous propose d'autres formules de débat, etc., etc. OK. Et donc à nous tous maintenant, population, association et autres, de dire, bon, OK, on a porté le fer dans la plaie et maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Maintenant, question, sous quelle forme au pluriel ?
Alors, moi j'entends bien ce que tu dis, et ce qui nous fait plaisir de là où on est à Reims,
oui.
C'est que la lutte à Bure semble reprendre et que en plus elle reprend sur des bases qui sont plutôt intéressantes, c'est-à-dire que les gens semblent avoir appris de l'expérience de la vôtre Cédra, puis aussi de l'expérience des gens qui étaient là, mais je crois que les nucléocrates aussi ils ont appris et que la CNDP, la Commission nationale du débat public, c'est vraiment un outil qui est à l'image de la politique. De la démocratie telle que toi tu l'as décrit, mais pour moi avoir pu approcher un petit peu cette CNDP, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ça, il y a à la fois des publicitaires, à la fois des sociologues qui sont là pour venir vendre et qui en fait permettent même pas de créer ou un débat, mais de valider, de donner un certificat de soi-disant démocratie et de l'égalité, parce que effectivement, quand on regarde l'histoire de l'enfouissement des déchets et des luttes suscité, c'est vraiment le dernier la dernière résistance antinucléaire qui pouvait avoir lieu en France, et les gens ont été réagis de manière très 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 dure, très 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 catégorique là-dessus, et donc cette CNDP, ce débat public, il sert vraiment à valider ça. D'ailleurs, le piège, c'est que soit tu vas dans ce débat public et tu te fais rouler dans la farine, puisque effectivement tout est déjà décidé, soit tu vas pas, ou tu le boycottes, ou tu l'empêches, et on va le dématérialiser sur Internet, et on va te dire, mais monsieur, vous n'êtes pas démocratique, puisque vous ne voulez pas débattre.
Alors, j'ai une question à te poser, Michel. Il me semble que ce débat public ne porte pas sur le fait que le centre de déchets va être à Bure. Il me semble que le débat porte sur des points techniques, sur comment on va faire arriver les déchets, etc., etc. Pour eux, il me semble que le débat est déjà biaisé à l'avance, puisque effectivement, là, c'est pas, on n'en est plus à savoir si Bure existera en tant que centre de stockage, mais c'est comment on va faire arriver les déchets. Il me semble que c'est ça le thème qui était du débat public.
Bien. Alors en fait, il faut malheureusement, et c'est souvent comme ça, il faut nuancer. Alors, moi je me permets de dire ça, je me permets de cette analyse parce que j'ai 18 ans de j'allais dire d'engagement fort, puisque j'y passe mes nuits et mes jours depuis 18 ans dans ce projet. Et effectivement, je pense qu'il faut, quand je dis c'est plus nuancé, je m'explique. D'une part, la commission particulière, c'est-à-dire celle qui a été désignée avec les sociologues dont vous avez cité, avec etc., etc., et son président, M. Bernet, cette commission elle-même, qui a demandé à nous rencontrer, qu'évidemment nous avons suivi, nous, son parcours, qui était à l'intérieur, etc., etc., je pense qu'on peut dire, s'il faut être honnête, hein, on est en démocratie, il faut vraiment regarder les choses en face, je pense que cette commission, et je le dis comme ça à l'emporte-pièce, grosso modo, elle est honnête, son président et autres. Je pense que le problème, il n'est pas là du tout. Je pense que le problème, autant cette commission, elle est honnête, autant le problème, c'est que ces gens-là sont complètement, quand je dis ces gens-là, c'est eux et ceux qui sont au-dessus. Et je remets avec une couche avec ce que j'ai dit avant, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, le gros problème, je pense, un des problèmes des associatifs, mais on n'est que des citoyens, on n'a pas de compétences, on n'a pas de tir, on ne fait que découvrir au fur et à mesure. Et quand on s'est rendu compte, nous, en tant que citoyens, que contrairement à ce qu'on croyait, on était en démocratie, on va mettre ça en démocratie, entre guillemets, etc. Autant on croyait qu'on était en démocratie, au fur et à mesure, on découvre comment les dés sont pipés à un point pas possible. Et là, vous avez deux solutions. Vous avez, je dirais, 90% des associations qui disent, bon, ces gens-là sont des pourris, on traduit ça comme tout on veut, on leur claque la porte au nez. Et extrêmement rares sont ceux qui ont dit, mais nous, c'est drôle, on l'a fait, mais on a été poussé un peu à le faire, qui ont dit, après tout, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller à Paris, parce que malheureusement, c'est là que ça se situe toujours, je l'ai dit tout d'abord, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller dans les fameux séminaires, les colloques, les trucs, les machins? Alors ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte qu'on est tout seul contre, j'allais dire, la masse des organismes officiels, etc. Sauf que, on a mis le pied là-dedans il y a un an et demi, et en un an et demi, on a vu la différence par rapport à maintenant. Je dis, il y a un an et demi, quand on est allé là-bas, on a entendu quelqu'un dans la salle, un représentant officiel d'un organisme, en disant « À Bure, tout va bien, la démocratie fonctionne, vous avez un comité local d'information et de suivi, vous avez des débats publics, vous avez des enquêtes publiques, etc. Et là, vous avez le CEDRA dans la salle qui s'est levé, qui a dit, bon, stop, ok, on entend assez de contre-vérités ici, vous avez ici quelqu'un qui vit sur le terrain depuis 18 ans, qui va vous dire ce qui se passe à Bure. Et il a terminé son discours, son intervention, en disant, nous sommes en 2012, février 2012, et vous nous parlez d'un débat public qui va avoir lieu en 2013. Je vous dis, moi, que quand en février, quand vous allez venir en 2013 pour faire un débat public, ne soyez pas étonnés d'être accueillis par des fourches. Je dis bien, d'être accueillis par des fourches, tant le passif démocratique est majeur, est lourd, etc., etc. La première fois qu'on dit ça à Paris, les gens sont un peu étonnés, tombent un peu des nues, et plus entendu ce discours depuis un an et demi, parce qu'on en a fait 3, 4, 5, 6 colloques, et ce qui fait que quand ils sont arrivés effectivement en 2013 à Bure pour ce débat public, et qu'ils se sont fait recevoir par des fourches, symboliques, mais ça n'empêche qu'elles étaient bien fortes quand même, et bien là, au moins, la grosse avantage de toutes ces associations se sont retrouvées sur le fait que ces gens-là, dans leur tour d'ivoire, parce que j'adore cette image-là, ces gens-là, dans leur tour d'ivoire, ont été obligés de se rendre compte qu'effectivement, le discours qu'on disait, l'alarme, et c'est pas quelque chose qu'on leur faisait peur, c'était une alarme, c'était pour les prévenir. Et maintenant, ils sont obligés de se rendre compte qu'effectivement, il y a un vrai problème à Bure, un vrai problème de système démocratique, de système décisionnel, etc. Donc c'est simplement pour dire que toutes les associations se retrouvent sur le fait que la commission du débat public, parlons-en, c'est un épiphénomène pour nous, c'est clair, enfin pour nous, c'est drôle. Le gros problème, c'est tout ce qu'il y a derrière et c'est tout ce qu'il y a au-dessus de ceux qui s'en servent. Autant la commission par elle-même, on en dira ce qu'on voudra et ma foi, moi je la mets de côté, mais c'est tous ceux qui se servent de ce truc-là, effectivement. Et je termine juste quand même, pour répondre au fond de votre question, à quoi sert cette commission du débat public ? Et effectivement, au début, c'était simplement pour travailler sur les modalités de la réversibilité d'un éventuel enfouissement. Sauf que les associations, et bravo à elles, ont tellement secoué depuis des semaines et des mois, que maintenant, et il y a un article dans la presse locale de Haute-Marne ce matin, et là, on dit, on répète, la commission répète, et la commission nationale répète que, mais pas du tout, le débat public, il sert à aller jusqu'à l'opportunité du projet. C'est-à-dire, est-ce que le projet, le fameux projet CIGEO, j'ai horreur de cet acronyme, moi je dis, est-ce que ce projet d'enfouissement, il est pertinent, oui ou non? Et c'est bien le fond de la question. Donc, et là, au moins, on a au moins réussi, justement, à aller sur le fond de la question, est-ce que l'enfouissement doit être fait, oui ou non? Donc c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment à une période clé. Ça y est, maintenant, on pose la bonne question. Alors, est-ce que le débat public sert à quelque chose ou pas à quelque chose? Je pense qu'honnêtement, et le CEDRA aussi, et puis les autres associations, il faut aller beaucoup plus loin. C'est ceux qui tiennent le pouvoir, donc c'est le Parlement, c'est l'État, c'est là qu'il faut porter la question.
Qu'est-ce que ça veut dire, CIGEO, au fait? J'ai pas trouvé le développement de cet acronyme.
CIGEO, c'est une fumisterie qui veut dire, c'est de l'ANRA, hein, c'est répondu par l'ANRA, qui veut dire centre industriel centre industriel. De stockage géologique. Le reste, il est même parti, il passe à la trappe de stockage géologique.
Oui, il n'y a même plus de stockage, c'est ça. Ouais.
Alors voilà, on ne parle même plus de déchets, on ne parle plus de nucléaire, on ne parle plus de rien du centre industriel de stockage géologique. Voilà, c'est tout beau. Donc encore une fois, c'est une fumisterie. Ça procède un petit peu de tout ce qu'on annonce. On n'a même pas l'honnêteté de dire les choses comme elles sont.
Ouais, mais c'est un peu plus classe CIGEO que poubelle nucléaire, quoi.
C'est clair. On est bien d'accord là-dessus, au moins. Mais voilà. Mais ça procède un petit peu de tout, de dire, bon, ben voilà, on a un vrai problème. Mais là aussi, je pense que le CEDRA est quand même en fer de lance, mais c'est l'historique, c'est les 20 ans qui sont là, qui fait qu'on a tellement vécu le chose, on a tellement étudié le dossier, on a tellement, etc., qui fait que maintenant, effectivement, ce CIGEO, ça procède de tout là. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut regarder le problème. Le problème, c'est, on est rentré dans l'industrie nucléaire, à tort ou à raison, mais on va même pas sur ce terrain-là. À tort ou à raison, on rentre dans l'industrie nucléaire. On se rend compte très rapidement qu'on a un problème majeur, c'est les déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on a fermé les yeux. On a fait la politique de l'autruche, tout le temps, jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va même encore plus loin en disant, non, attendez, on a trouvé une solution, on les enfouit. Et nous, on est simplement là, en tant que citoyens, en découvrant le sujet au fur et à mesure, de dire, bon, attendez, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si on a un peu de sagesse, si on a un peu d'intelligence et d'éthique, mot majeur, et d'éthique vis-à-vis de ceux qui vont arriver derrière nous, il faut se rendre compte, il faut être honnête, il faut dire qu'on a un vrai problème avec cette industrie nucléaire, elle a des déchets, on sait pas comment les gérer, voilà, il faut le dire, partout au monde, personne n'a de solution, il faut donc tout remettre à plat. Il n'y a plus d'histoire de stockage géologique, etc., 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 il faut appeler les choses comme elles sont, un chat c'est un chat, hein, et il y a un vrai problème avec ça, et donc voilà. Mais tout le temps qu'on n'aura pas obligé ces gens-là à reconnaître qu'il y a un vrai problème, évidemment, on ne sortira jamais, on n'arrivera jamais à trouver de solution. Donc à partir du moment, et c'est notre rôle associatif, à partir du moment où on les obligera à reconnaître qu'il y a un vrai problème, peut-être que là, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, à partir de ce moment-là, on s'engage sur la recherche de solutions. Et là, voilà. Donc, on est encore une fois, on est à une clé, une période clé où il faut les obliger à reconnaître que il faut sortir la tête de l'autruche du sable.
Alors, une question. Il me semble qu'il y a une date limite prévue pour qui est, si je me trompe, 2018, oui. pour savoir si on fera un stockage, comme ils appellent, réversible ou non. Et la deuxième date qui est, je crois, 2026 pour si jamais le projet CIGEO obtenait l'aval du gouvernement et des parlementaires, c'est l'ouverture, il faut qu'il ouvre en 2026, si je ne me trompe
pas. Voilà. Alors en fait, on peut regarder les choses de différentes manières complémentaires. La première, c'est de dire, on entend souvent par exemple ici dans la région, oui mais les dés sont déjà jetés, les décisions sont déjà prises, l'enfouissement, etc., etc. Alors, on va répondre, c'est vrai. Déjà, je dirais, depuis 1993, je répète, la fameuse loi Bataille que vous avez citée, dès 93, dans la tête de ces gens-là, j'insiste, je le souligne, ces gens-là, dans la tête de ces gens-là, il est clair qu'on enfouit comme ça, on est débarrassé du problème. Ok, donc c'est clair que pour eux, c'est l'enfouissement. Alors après, ils ont mis des jalons, des étapes, hein, de 2006 avec une loi, ensuite 2013 avec un débat public, etc., etc. Mais en fait, c'est la politique, c'est ce qu'on appelait, nous, la stratégie de l'entonnoir. On vous fout dans l'entonnoir avec la loi Bataille en 93, et puis vous rentrez gentiment dans l'entonnoir, puis à la fin, ben, ma foi, voilà, vous êtes dans le tuyau et terminé. OK. Alors, on peut voir la chose différemment. On peut se dire aussi que la chance qu'on a, c'est que ces gens-là ont tellement eu la trouille pour faire passer leur pilule, en fait, ils ont donné du temps, parce qu'ils se sont dit, si on leur dit dans 6 mois, on enfouit, évidemment, tout le monde va se rebeller. Sauf que si on se donne du temps, si on dit, mais attendez les gars, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 20 ans, en 2025 par exemple. Alors là, ben, les populations disent, oh, ben alors si c'est comme ça, et puis on s'habitue, voilà, 1993, 1995, 2000, 2005, 2010, etc. On a tendance, la psychologie humaine a tendance à se faire habituer avec ces choses. Alors effectivement, à l'époque, au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase où il y a le débat public et ensuite il doit y avoir à nouveau une nouvelle loi. Et normalement, cette loi, elle doit ne traiter que des modalités d'un éventuel système réversible de ces fameux stockages. Donc ça, c'est effectivement vers les années 2016-2018. Et ensuite,
Qu'est-ce que ça veut dire, Michel, stockage réversible? C'est-à-dire qu'on pourrait aller rechercher?
Voilà. Alors, j'ai voulu passer assez vite parce que la réversibilité, on peut parler pendant toute une journée, hein, c'est clair. Mais je vais revenir juste après, je termine juste la démonstration pour bien comprendre. Je reviens sur la réversibilité. Effectivement, donc, il y aurait une loi en 2016, grosso modo, 2017-2015. Et ensuite, si la loi dit OK, feu vert à l'enfouissement, ce qui pour l'instant était dans les tuyaux, eh ben, on donne l'autorisation et dès 2020, donc on n'est pas en 2026, dès 2020, on commence les travaux. Et l'enfouissement par lui-même, proprement dit, c'est ma copine Madame Dupuis, directrice de l'ANDRA, qui dit on commencerait l'enfouissement réel, effectif, en 2025. Donc vous voyez, l'échéance est 2025, mais on commencerait l'enfouissement dès 2020, si en 2016 on a l'autorisation. Et le 2013, le débat public, procéderait à conforter l'autorisation. Ouais, pour bien situer un petit peu tout le système décisionnel. Et je termine juste en disant que justement, on est dans une période, encore une fois, où il n'y a pas de déchets nucléaires d'enfouis, à l'heure actuelle, et les premiers qui seraient enfouis si l'autorisation était donnée, ne viendraient qu'en 2020. C'est-à-dire, et là j'insiste lourdement, je tape sur la table, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de résignation, on est vraiment dans une période où on peut prendre des décisions. Et tout montre que justement, toutes ces dernières années ont permis à ce que justement l'aspiration de la population arrive justement à faire comprendre ce que c'est que ce projet, et on voit les populations qui commencent à surbiffer. Donc on est vraiment, encore une fois, dans cette période clé, où c'est aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, où c'est les populations qui vont se faire entendre ou ne pas se faire entendre. Alors je réponds quand même sur réversibilité, mais je vais faire quand même très simple. Ce sont les Canadiens qui un jour, parce que tous les pays au monde qui sont nucléarisés, qui ont fait du nucléaire et qui se trouvent emmerdés avec ces poisons nucléaires, aucun pays au monde ne sait quoi en faire. Et donc tous se sont regardés, se sont téléphonés, qu'est-ce que t'en fais, toi et toi et toi. Et puis il y a un couillon un jour qui a dit, bah si on faisait un grand trou pour les enfouir. Puis tous ont applaudi en disant, oh bah tu vois. Voilà.
Rappelons qu'avant on les balançait dans l'océan. Hein.
Oui, mais c'était pas tout à fait les mêmes. Ils étaient quand même
d'accord,
moins pires.
Je te l'accorde, mais bon.
Voilà. Mais c'est vrai. Et on continue d'ailleurs. Oui. Voilà, hein. Honnêtement, on entend de temps en temps des gens dire, par exemple, la mafia russe ou italienne, se met en biais avec certains pays qui ont du nucléaire pour dire, bah, attendez, nous on vous les prend à tel prix, pas trop cher, on les balourde dans la mer tyrrhénienne, enfin, etc., etc. Régulièrement, il y a des scandales qui émergent quand même. Mais bon, parenthèse, j'allais dire nauséabonde, mais parenthèse. Et donc, la réversibilité, ce sont les Canadiens qui se sont dit, ok, mais, alors, c'est là que c'est eux qui ont commencé la sociologie, en disant, le problème, si on veut enfouir, s'en débarrasser les enfouissants, le problème, c'est que les populations locales, quand vous parlez d'enfouissement, c'est pour ça qu'ils ont parlé, eux, de stockage souterrain, c'est quand même bien mieux que l'enfouissement, si on parle de stockage souterrain, ça fait quand même un peu la trouille aux populations. Et ce sont les Canadiens qui, en faisant la sociologie, les premiers ont dit, attendez, on vient de découvrir quelque chose, c'est un verrou psychologique, si on dit aux gens que ça sera réversible, c'est-à-dire la réversibilité, ça veut dire que un jour ou l'autre, si nécessaire, on pourra, les colis que nous avons enfouis, nous pourrons aller les rechercher et on les ressortira. S'ils fuient, si on a trouvé une solution, etc. Et là, c'est formidable, et dans la région de Bure, ça a été merveilleux. Un jour, on arrive avec cette notion de réversibilité, et vous avez tous les élus locaux, bon, qui étaient déjà un peu tièdes parce qu'ils touchent de l'argent, donc ils n'étaient pas tout à fait contre, mais quand même, ça les faisait un peu chier, cette histoire d'enfouissement. Et là, on leur dit, non mais attendez, c'est l'enfouissement, mais réversible. C'est-à-dire que s'il faut, on ira les rechercher. Et là, vous avez une merveille, vous avez les yeux qui s'ouvrent, et là, tout le monde dit, ah ben alors, si c'est réversible, ok, pas de problème, ben, alors là, on vous laisse faire. Oui, j'insiste sur cette notion de réversibilité, elle est inventée, ce que je dirais, moi, pour l'acceptabilité. Pour faire accepter la notion d'enfouissement, et ben voilà, on vous dit, ça sera réversible. Alors, sauf qu'on va aller beaucoup plus loin, et maintenant, vous avez nombre de personnes, dont le CLIS de Bure, Comité local d'information et de suivi, qui n'est pas un foudre de guerre contre l'enfouissement, et qui même lui, maintenant, finit par dire, mais attendez, la réversibilité, faut pas nous prendre pour des couillons, quand même, hein. Une fois que ça s'enfouit, qui sait qui ira rechercher ça? Et à quel coût, oui. Etc., etc.
Qui sait qui ira aller rechercher, effectivement,
bien sûr,
les déchets?
Bien sûr.
Alors, on va faire une pause musicale, là, puis on te reprend après, parce que on a notre émission jusqu'à 8 heures.
T'as le temps de faire ta pause.
Merci.
God. Blam 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 la papoum, 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 la papoum.
Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu masques à la robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer la balle. Impossible d'avancer sans toucher la barbale. Tu voudrais donner des vieux à la justice. Impossible de violer ces femmes et de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid.
Blam.
Repense à toutes ces années de service.
Blam.
Antisocial, bientôt les années de suivi.
Blam.
Enfin, le temps perdu, on le rattrape plus. Et creuser les gens, mais de donner ton passe-temps. On les éclabousse, tout devient gênant. Dans ton désespoir, être un simple espoir. Celui de voir les gens sont carrément bâtards. Et ça préfère le point bouche-cul dans les bois. Bouche-cul dans la traite, donc pour lui d'être parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas mal. Ce qui a ton bilan, je ne te jugerai. Antisocial, tu perds ton passe-droit.
Blam.
Repense à toutes ces années de service.
Blam.
Antisocial, bientôt les années de civil.
Blam.
Enfin le temps perdu, on ne le rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Oh.
la 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 la
Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te trouvent pas pour faire le premier pas.
Donc tu voudrais dire que l'heure en veut la balle. Même si tu danses sans ton sur la balle. Tu voudrais donner des yeux sur la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice.
Antisocial, tu perds tout ton froid. Blam. Repense à toutes ces années de service. Blam. Antisocial, plutôt les années de service.
Blam.
Enfin le temps perdu, on le rattrape plus. On le rattrape plus. On le rattrape plus. On le rattrape plus. Oh, oh, oh. Antisocial, antisocial. On est tous très antisocial. Très 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 antisocial. Nous glissons antisocial. Extrêmement antisocial. Radicalement antisocial. Antisocial.
Vous êtes à l'écoute de Donc de l'Égrégore. On fait émission ce soir sur la lutte de Bure contre l'enfouissement des déchets. Et nous avons au téléphone Michel du CEDRA. Alors Michel, je crois qu'il faut maintenant parler un petit peu de la stratégie actuelle du CNDP, puisque le CNDP apparemment, la commission, la CNDP, excuse-moi, la commission a changé de son fusil d'épaule, puisqu'au départ, elle avait prévu 14 débats publics, le premier à Bure, puis ensuite dans les villes avoisinantes, et puis à la rentrée de septembre, c'était surtout dans les sites qui sont déjà nucléarisés, comme Marcoul, comme le Bugey, etc., pour se terminer à Paris, et puis ensuite, finalement, l'apothéose avait lieu, je crois, dans la Meuse ou en Haute-Marne, je me souviens plus très bien. Alors, je crois que la CNDP s'est rendu compte que les gens, effectivement, sortaient peut-être pas les fourches, mais étaient présents au débat très nombreux, puisqu'on a parlé de Bure, mais il y a eu aussi le fameux débat de Bar-le-Duc, où il y avait tout de même dans la salle 200 à 300 personnes qui étaient contre cet enfouissement et qui ont manifesté bruyamment leur venue et le fait qu'ils étaient là. Alors bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de ce que va faire la CNDP? Il y a un truc sur lequel je suis tombé qui m'a laissé dubitatif. C'est le fait que la CNDP a fait un sondage par la Sofres de soit 600 personnes, je crois, en Haute-Marne et dans la Meuse. Et ce sondage a été fait donc le 15 et le 16 juin 2013. Je vais citer les conclusions de ce sondage. Alors, ils en concluent que pour les habitants de la Meuse et de la Haute-Marne, c'est au sein du débat que l'opposition au projet doit s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vous demandent finalement de rentrer au sein de ce débat. Il s'agit d'abord sans doute d'une position de principe qui consiste à préférer le débat au refus du dialogue. Ça a toujours été ce qu'a dit la CNDP. À cela s'ajoute le sentiment que la méthode du débat public offre un certain nombre de garanties, accès à l'information et pluralité des avis. Ça, bon, pourquoi pas, si ce n'est que c'est pas eux qui décident, puisque ce sont les décideurs qui vont le faire en 2018. Enfin, les habitants demandent à être rassurés sur la prise en compte des opinions exprimées durant le débat dans les décisions ultérieures. Je pense que tu as eu l'occasion de lire cette conclusion donc de la Sofres.
Oui, je dirais que de toute façon, la commission... alors, on va faire quand même, pour les puristes, il y a la commission nationale du débat public et qui elle-même nomme des commissions particulières du débat public. Donc, c'est CPDP, commission particulière du débat public sur l'enfouissement. Cette commission, en fait, elle savait pertinemment ce qu'il en était dans la région. En fait, quand elle a commandité ce sondage, après tous les problèmes qu'elle a eu à Bure et à Bar-le-Duc, ou au moins à Bure, quand elle a commandité ce sondage, c'était, j'allais dire, uniquement pour conforter un petit peu sa vision des choses, dans le sens de dire, voyez, nous, on est mandatés pour faire du débat public, et regardez, les populations demandent aussi du débat public.
C'est ça, ouais. Formidable.
Mais quand même, j'insiste. Ce qui est très intéressant dans ce sondage, parce que, bon, cette première question à la con, on la balaye, et point final. Non, ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gens de Meuse et de Haute-Marne, qui sont des couillons moyens, et d'ailleurs, les couillons moyens, le paysan moyen qui est resté en Meuse et Haute-Marne, lui, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a gardé les pieds sur terre. Il n'est pas dans les... etc., etc. Lui, il a les pieds sur terre. Et qu'est-ce qu'il dit dans les dernières questions? La première, il dit, je veux effectivement le débat public, c'est une bonne chose, il faut débattre, parce qu'il y a besoin de débattre. Donc, ça montre déjà que s'il y a besoin de débattre, et que le projet, il n'est pas si clair que ça. Il était tout clair, il n'y aura pas un débat, tout le monde serait d'accord depuis 18 ans, on n'en parle plus. Donc il demande quand même du débat, mais la dernière question, il dit autre chose dont personne ne parle jamais dans ce sondage, et c'est pourtant pour moi la question quand même essentielle, il dit « je veux du débat », première question, et la dernière, il dit « mais je ne suis pas dupe ». Je ne suis pas dupe, je sais très bien, à un certain nombre de pourcentages et la majorité, je sais très bien que ce n'est pas dans ce débat que les décisions seront prises et que de toute façon, à la limite, il le traduit comme ça, à quoi sert ce débat puisque ce n'est pas là que les décisions seront prises. Donc c'est pour ça que le débat et le débat public, là, c'est PDP, ça m'est servi un petit peu évidemment comme outil. Moi, je suis un petit peu dubitatif aussi sur le fait que, oui, mettons la première question en avant, mais mettons les autres en avant aussi et surtout, les mêmes gens qui demandent du débat public, à la fin, ils vous disent, mais attendez, je suis quand même pas le couillon des derniers des couillons et je sais bien que ce débat public, il est un peu pipé dans le sens où les décideurs derrière, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce débat public? Donc là, il y a quelque chose aussi à tirer, là, au niveau démocratique.
Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que le débat en question, les débats en question vont être centrés sur Internet. C'est quand même assez intéressant quand même de constater que finalement le public voudra qu'il ait son ordinateur, Internet, etc., qu'il puisse communiquer, et puis ça sera pas public, quoi. T'es tout seul devant ton ordinateur.
Oui, alors effectivement, j'ai oublié de répondre à ça. En fait, le débat public il s'est trouvé complètement coincé par cette réunion de Bure, ensuite de Bar-le-Duc, etc., etc. Bon, là, se trouve devant le mur, et qu'est-ce qu'on fait? Et on est mandaté pour faire du débat. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on pique le truc de la commission particulière pour remettre ça à Paris à la commission nationale. Et la commission nationale se réunit le 3 juillet dernier. Évidemment, elle a cogité bien en amont, etc., etc. Et elle sort un petit peu ce que tout le monde attendait, parce qu'on a vu, évidemment, tout le monde a eu des échos un peu. Trois points essentiels. Le premier, c'est on va faire des réunions, mais on va plus faire des grosses réunions où il y aura du monde où on va débattre. On va faire des réunions dans chaque village, ou si c'est pas dans chaque village autour de Bure, c'est quasiment la même chose. Autrement dit, là, c'est plus du débat. Ça sera uniquement adressé aux gens locaux, on leur mettra un petit tract dans la boîte à lettres, comme ça ils vont pouvoir se déplacer. Au besoin, on fera un filtre pour ne faire rentrer la salle que les gens qui sont du village. Autrement dit, il n'y a plus de débat. Il est complètement quitté. Donc la mission du débat public, elle est complètement squeezée, elle est complètement bafouée, elle est complètement... Donc c'est la débilité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, on fait sur Internet. Alors là, ça me fait rigoler encore plus. Ouais. Du débat sur Internet. Non mais franchement. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du débat qu'il va y avoir, c'est de l'information. Puisqu'on dit, la commission dit que le 11 juillet, par exemple, à partir du 11 juillet et dès le 11 juillet, il va y avoir monsieur...
Dessus, je crois.
C'est plus grave, monsieur Laponche, qui, avec l'IRSN, par exemple, les deux là vont venir pour expliquer un petit peu quels sont l'ensemble des déchets nucléaires, etc., etc. Alors c'est intéressant, mais c'est de l'information, c'est pas du tout du débat, même si quelques-uns vont venir sur Internet pour poser telle et telle question. C'est le deuxième point, donc c'est du n'importe quoi. Le troisième point paraît beaucoup plus intéressant au niveau démocratique. C'est de faire une conférence de citoyens. Comme ça existait dans les pays scandinaves, puisque c'était inventé, mais avec... Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a une vraie volonté de prendre des citoyens lambda, Meuse, Haute-Marne, voire ailleurs, mais a priori c'est le département, on prend des citoyens lambda, on leur demande de passer un certain temps à s'informer, voilà, on va les former, c'est plus que de l'information, on va les former, comme ça s'est fait sur les OGM ou d'autres sujets dans d'autres pays, et à la fin, il va y avoir un grand raouf, et entre eux, ils vont prendre des décisions. Bien entendu, mais ils vont dire un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, autant en théorie, ça paraît tout à fait super, puisque ça existe ailleurs dans d'autres domaines, la question qui se pose là aussi, est-ce que les dés, est-ce que c'est honnête, moi j'aime bien ce mot avec un H majuscule, ou est-ce que les dés sont pipés? Qui est-ce qu'on va les chercher pour faire partie de cette conférence de citoyens? Qui va les former?
Oui, parce que qui dit former dit déformer aussi.
Voilà. Donc on a trois points essentiels. On a la commission nationale ou la commission particulière a complètement perverti un petit peu la mission qu'elle avait en voulant sauver les meubles, effectivement, ou changer son fusil. Elle a changé son fusil d'épaule. Mais la question qui se pose maintenant, et tout le monde se regarde en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi.
Alors on a vu que d'ailleurs que le débat qui était prévu jusqu'au mi-octobre
oui.
va se poursuivre jusqu'au 15 décembre.
Ce qu'on avait demandé, ce que les associations demandaient dès le départ en disant, alors quand même, il faut quand même le dire, quand je disais le CEDRA tout à l'heure avait dit depuis déjà au moins un an et demi, il y a un tel passif sur la région de Bure qu'on va vous attendre avec des fourches parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure, il faut remettre tout à zéro. Bon, et là, dès le départ, il y a une quarantaine d'associations, dont le CEDRA, qui avait dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ses collègues au jour d'aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut, quelle politique adopter vis-à-vis du débat public, mais ces 40 associations, et dont le CEDRA, avaient dit de toute façon, le débat public, il est très mal parti, puisque déjà, il ne veut rien entendre, et il nous dit qu'à partir du mois d'octobre, mi-octobre, ça sera terminé. Or, quand même, ça c'est lourd, on est à l'heure actuelle dans un débat national sur la transition énergétique. Et en toute logique, on dit, ce qui va sortir de ce débat, c'est une loi, et cette loi, elle peut avoir des conséquences fortes sur la gestion des déchets nucléaires. Si on arrête le nucléaire, si cette loi, par exemple, par miracle, elle décide qu'on arrête le nucléaire demain, bah, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de déchets qui sont prévus, et au contraire, si elle décide que, bah, tout compte fait, on va pas fermer Fessenheim ni rien du tout, et on continue comme si de rien n'était, au lieu de faire un EPR, on en fait 5, bah, ça change complètement la donne pour Bure également. Donc, en toute logique, cette association disait, ce débat sur les déchets nucléaires, il faut absolument le faire, on ne peut le faire que après la loi sur la transition énergétique. C'est-à-dire que après, j'allais dire 2013, après la fin de l'année 2013. Or, le débat public déchets nucléaires, il s'est fait dans l'année comme si de rien n'était. Donc, autrement dit, ces gens-là ont pris une telle claque, quand je dis ces gens-là, c'est pas la commission, hein, c'est les gens qui sont au-dessus, hein. Et quand ces gens-là ont pris une telle claque, ils deviennent un peu plus, ils essayent de replâtrer un peu le truc en disant, bon, du 15 octobre, on repousse au 15 décembre. Donc oui, c'est quand on dit que le truc il est bancal de tous les côtés, quoi.
D'accord.
Michel, on va être obligé de s'arrêter. Il te reste 2 minutes pour nous donner les prochains rendez-vous à Bure, qui pourraient intéresser les auditeurs qui nous écoutent, et puis pour nous donner éventuellement des références si on voudrait se documenter un peu plus, comme par exemple le site du CEDRA.
Alors, on va faire très simple. Tout le monde qui nous écoute à la radio au jour d'aujourd'hui est un citoyen, une citoyenne. Il faut se prendre en main dans tous les domaines. On n'a pas d'autre choix que de se prendre en main si on veut faire bouger les choses. Et les choses, elles bougent en ce moment. On le voit avec les indignés, on le voit partout. Il y a une réelle aspiration à changer de système. Donc, on n'a pas d'autre choix. On se prend tous en main. Et pour se prendre en main, la première chose à faire, c'est rejoindre des associations qui existent. À droite, à gauche, au-dessus, en dessous, n'importe où. On s'en fiche. Rejoindre les associations. Les échéances, et la première, c'est mercredi, après-demain. Où là, il va y avoir un vrai débat, puisque les associations locales, certaines associations locales et certains partis politiques, qu'on pousse au cul, il faut le dire quand même, se sont décidés à faire une soirée publique. C'est donc mercredi soir à Chaumont, à 20h. Voilà, il y en a eu une à Bar-le-Duc la semaine dernière. Il y en a une dans 2 jours, mercredi soir à Chaumont, 20h. Voilà l'échéance. La prochaine, c'est le festival de Bure, petit festival de Bonnet, petit festival contre la grosse poubelle nucléaire qui a lieu tous les ans. Cette année, il est avancé et il est le dernier week-end du mois d'août. Donc venez tous, là vous allez entendre des informations, mais aussi de la musique, etc. Ça dure 2 jours, du vendredi soir au dimanche soir, dernier week-end d'août, venez tous à Bonnet, à côté de Bure, donc dans la Meuse. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a les sites internet. Alors le site internet, il y a celui, par exemple, je dirais celui qui draine tout à l'heure actuelle, c'est le CIGEO, hein, on a parlé de CIGEO, CIGEO.CIGEOOUT.com. Donc si, alors, je recommence, CIGEOOUT.com. Et là, il y a un certain nombre d'associations qui sont prises en main et qui drainent tous les gens qui ont quelque chose à dire contre ces projets d'enfouissement. Alors, souvent des scientifiques, mais pas seulement. Et là, il est en train de mousser quelque chose, il est en train de se passer des choses. Je pense qu'on est bien parti. Là, maintenant, il faut vraiment fédérer tout le monde.
Eh ben, merci Michel. À bientôt.
Merci. Bon courage.
Merci à vous surtout. Merci à vous infiniment.
Allez, au revoir. Hein. Merci.
Au revoir, plaisir.
Contre ces conditions qui reproduisent les maintenues, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique. critique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, vous écoutez les Régors, c'est chaque semaine sur du coup de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims, c'est Régors, une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver, eh bien, quand vous voulez, sur le blog Chat Noir 51 et sur le site Aussi Libertaire.